rap.
Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour Culture Média. On est un peu dissipé dans ce studio. Au menu pourtant 2 heures de médias et de culture au sens large. Vous pouvez nous suivre en vidéo sur le site europe1.fr. Vous verrez notamment Cyril Lacarrière avec son smartphone qu'il découvre. Avec le journal des médias, le journal de la culture, le portrait inattendu d'Hélène Manarino avec des infos qu'on découvre et un événement en matière de BD, le retour de Corto Maltese, premier album depuis la mort de son créateur Hugo Pratt. Qu'est-ce que ça vaut? On vous dira. Notre info média avec Alain Genestard, fondateur et directeur de Polka, autoproclamé le plus beau des magazines de photographie d'actualité, qui lance une nouvelle formule, un nouveau service pour les annonceurs et également un nouveau prix. Il vous dira pourquoi. Ensuite, Martin Veil, ex-journaliste emblématique de l'émission Quotidien, il vole désormais de ses propres ailes sur TMC et il est parti pour 2 longs reportages à la découverte du Brésil et de l'Amazonie un an après l'élection de Bolsonaro. Bilan. Maxime Le Forestier ensuite, il sort son 17e ou 18e album studio, lui-même ne sait plus trop, il a une formule magnifique, il dit chanteur, c'est bien, vieux chanteur, c'est mieux. Il est en tournée jusqu'en mai et pour le coup, il ne fait pas dans la sagesse. Il dit aussi, la scène, c'est une drogue dure. Bref, il est accro, il l'avoue, c'est un bon début. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Philippe Bandel, bonjour à tous.
Et comme tous les jours, y compris les jours fériés, nous démarrons avec Pierre Desereaux de Pure Média. Bonjour Pierre.
Bonjour Philippe.
Ce sont les audiences télé. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir?
Eh bien, surprise hier soir, c'est M6 qui s'est classé en tête des audiences. M6 qui proposait une nouvelle soirée, déjà la 11e de L'Amour est dans le Pré, l'émission de Karine Lemarchand. Hier, ils ont été 3 700 000 à suivre les romances des agriculteurs. 17,4% du public, et c'est un très bon score puisque c'est le record de saison de L'Amour est dans le Pré. TF1 est deuxième avec le téléfilm inédit Itinéraire d'une maman braquée avec Cécile Reboa que vous receviez hier dans ce studio. Cette fiction sur une femme surendettée qui décide de commettre un braquage a été suivie par 3 400 000 Français, 15,8% de part d'audience. Et à noter que c'était une soirée continue, puisqu'à 23h, TF1 proposait Surendettement, le combat des femmes, un documentaire de Marion Bayot qui était également parmi nous hier. Et bien ce documentaire a été regardé par 1 450 000 personnes, 14,6% de part d'audience. France 2 est troisième avec une rediffusion du téléfilm Piège Blanc avec Astrid Veillon et Philippe Bas. 2 350 000 téléspectateurs se sont passionnés pour cette fiction sur un accident en haute montagne, 10% du public. Enfin, au pied du podium, c'est France 3 avec le documentaire historique Après la guerre, l'impossible oubli. Un doc qui était programmé dans le cadre des célébrations du 101e anniversaire de l'armistice du 11 novembre. 1 900 000 personnes ont passé la soirée devant ce doc historique, 8,1% de part d'audience. Et enfin, beaucoup de choses à vous signaler du côté des autres chaînes.
Ah oui.
Il y a 3 chaînes donc qui dépassent le million.
Ah, c'est pas souvent.
C'est pas souvent.
Ouais.
Et c'est à commencer par TMC qui proposait le film américain Captain America First Avenger. 1 200 000 téléspectateurs, 5,9% du public, gros succès. Tout autre genre sur Arte qui est au million aussi avec L'Étau de Hitchcock, 1 million également, et 1 million aussi pour W9 avec Pirates des Caraïbes, La Fontaine de Jouvence.
Et puis Pierre, vous vouliez faire un petit point sur l'audience des 20h, le pic d'audience de la journée.
Oui, il y avait beaucoup de monde devant les 20h. C'est peut-être l'effet dû à l'intérêt autour du séisme dans la Drôme et dans l'Ardèche.
Ah oui, toujours quand il y a une catastrophe naturelle.
Exactement, un sujet très concernant. Et donc TF1 s'est classé en tête avec le journal de 20h de Gilles Boulot. 6 300 000 téléspectateurs.
Ah oui, c'est beaucoup, 6 300 000.
Oui, c'est beaucoup. 24,8% de part d'audience. Beaucoup aussi pour France 2 avec Anne-Sophie Lapix. 5 800 000 personnes, 22,8% du public. Et sur M6, c'est Xavier Demoulin qui officie à la tête du 1945, suivi hier par 3 400 000 fidèles, 13,9% de part d'audience. Et enfin, un tout petit mot sur la cérémonie du 11 novembre qui était diffusée le matin sur France 2 avec Julien Bugier. Eh bien, 1 600 000 personnes ont suivi la retransmission de cette cérémonie, 23,8% du public.
Donc c'est un très 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 bon score.
Oui oui, comme d'habitude les gens s'intéressent au 11 novembre.
Ben on est ravis. Le soldat inconnu, c'est pas vous Pierre Desereaux. Merci, à demain.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour.
Vous
à
non
tous,
plus, vous n'êtes pas tous le soldat inconnu, quoi que vous soyez allé fleurir sa tombe hier. Non,
oui,
c'est pas une tombe, c'est rallumer la flamme.
Absolument.
Après
j'ai
les audiences, on va faire un tour de l'actu des médias avec vous. Qu'est-ce que vous avez pour nous aujourd'hui?
Toutes les opinions sont-elles bonnes à dire? Une dose de caféine dans votre information et Disney qui dégaine l'artillerie lourde.
Et Cyril, vous commencez avec la grande confrontation, le retour.
Le format qui fait les belles soirées de LCI revient demain soir et c'est David Pujadas lui-même qui l'a annoncé.
Un grand rendez-vous après-demain soir 20h45, la grande confrontation revient. Toutes les opinions sont-elles bonnes à dire aujourd'hui? Intimidation, pétition, y a-t-il un recul de la liberté d'expression? Ou bien est-ce un cliché? Ou bien est-ce un progrès parce que les expressions blessantes seraient désormais proscrites? Voilà, on en débattra avec des intellectuels, des politiques, des artistes aussi. Grand débat, la grande confrontation mercredi.
Un débat avec un fond de musique rock. Toutes les opinions sont-elles bonnes à dire? Avec ce thème, LCI surfe sur une actualité que la chaîne a parfois elle-même créée. On se souvient de plusieurs sorties qui ont créé la polémique ces dernières semaines, sur l'antenne bien sûr de la chaîne Info. Selon notre camarade du Parisien François Rousseau, Alain Finkielkraut, Frédéric Taddeï, le dessinateur Philippe Geluck et l'avocat Emmanuel Pierrat, qui défend notamment la famille de Yann Moix, devraient être de la partie. Alors, recul de la liberté d'expression, toutes les opinions sont-elles bonnes à dire? Philippe, vous avez 2 heures et vous me rendez une copie.
Blague à part, il y a même des gens qui veulent interdire ce genre d'émission. On est dans la mise en abîme totale. Cyril, le streaming, c'est une pratique qu'on connaît pour la musique, avec Spotify notamment, et les séries grâce à Netflix. Mais le streaming, ça existe également pour la presse écrite.
En effet, Philippe, en France, nous avons plusieurs plateformes qui proposent des abonnements illimités qui permettent de lire un vaste choix de journaux et de magazines. Il y a par exemple e-presse, SFR Presse, Pressmium, que vous avez reçu ici récemment. Ouais. Et il y a, ou plutôt il y avait, le kiosque,
Je l'avais moi.
Ouais, car la marque a décidé de changer de nom, vous allez voir. Finito, le kiosque, place désormais à caféine. Oui, comme cette molécule que vous retrouvez dans le café que vous buvez actuellement.
Et on peut nous voir sur europe1.fr.
Tout est dit. quel VRP. Alors si comme moi, vous trouvez que c'est un drôle de nom pour un kiosque à journaux, écoutons ce qu'en dit Harry Assuède, le patron de caféine. Il est au micro de Louise Bernard.
Caféine, pourquoi? Parce que caféine, c'est l'éveil, c'est la curiosité. C'est l'attention et c'est une marque aussi qui résonne à l'international. Donc il y a vraiment plusieurs dimensions autour de caféine qui nous permettent d'embrasser en fait finalement un volet plus large que celui qu'on pouvait avoir simplement avec notre marque traditionnelle. Et l'ambition de la boîte, c'est de devenir le champion européen en fait dans cette nouvelle verticale qu'est le streaming de l'information de qualité. Et on se donne 2 ans pour y arriver.
2 ans pour arriver à devenir un Deezer européen de l'information en ligne. Selon le même principe, vous payez 9,99€ par mois et vous avez accès à un large catalogue de quotidiens ou d'hebdomadaires. Une bonne manière de réussir à convaincre les gens de s'abonner, estime Harry Assuède. On l'écoute à nouveau.
Il y a une sorte de saturation de l'abonnement digital. Et on vous s'abonne déjà à une plateforme de streaming, de musique, une plateforme de streaming de vidéos. Donc c'est compliqué quand vous êtes une marque de médias, même si elle est extrêmement forte, de proposer en fait un abonnement unitaire qui coûte relativement cher. Les gens consomment en moyenne à peu près 10 de titres de presse écrite aujourd'hui, mais ils ne vont pas s'abonner à 10 de titres. Donc ça c'est une évidence, ils n'ont pas l'économie pour pouvoir le faire. Donc il faut trouver des plateformes qui soient alternatives et qui permettent finalement d'assurer cette diffusion, de valoriser leur marque. Et nous aujourd'hui, on est plutôt un acteur qui arrive à retrouver des moyens de monétiser leur contenu de façon complémentaire plutôt que de leur cannibaliser. Ça s'est jamais constaté. Si c'était le cas d'ailleurs, il y a certains éditeurs qui seraient partis de chez nous et ça n'a jamais été le cas jusqu'à aujourd'hui.
Caféine se revendique aujourd'hui comme le premier service de streaming d'information en France avec 1 million d'utilisateurs actifs mensuels. Malgré cela, le modèle économique de ces kiosques en ligne reste encore très flou, aussi bien pour les plateformes que pour les éditeurs. D'ailleurs, tous les journaux n'y figurent pas. Par exemple, le groupe Le Monde refuse d'y intégrer ses journaux et ses magazines.
Les Américains, eux, ne vont parler que de ça aujourd'hui, le lancement de Disney+.
C'est le jour J pour la nouvelle plateforme de vidéo à la demande par abonnement du géant du divertissement. Disney+ est mise en ligne depuis ce matin aux États-Unis, en Inde, aux Pays-Bas et au Canada. 4 pays pour commencer. Les Français, eux, devront attendre le 31 mars. Disney+ est très attendu car elle pourrait bien être la première grosse concurrente de Netflix, avec un immense catalogue composé des dessins animés emblématiques qui ont fait la joie de générations d'enfants et ses films aux succès mondiaux comme les super-héros de Marvel et bien sûr cette saga légendaire. Star Wars, c'est avec l'univers créé par George Lucas que Disney+ lance les hostilités aujourd'hui. La série The Mandalorian va servir d'arme de marketing massive avec la mise en ligne, donc je vous l'ai dit, dès aujourd'hui du premier épisode, d'ici 5 ans.
Ça a à voir avec Star Wars, série.
La série est déclinée de l'univers Star Wars. On retrouve un des personnages qu'on voit de temps en temps, le Boba Fett. En fait, c'est un chasseur de primes, voilà, qu'on voit dans Star Wars, et c'est lui c'est pas Boba Fett, mais c'est les chasseurs de primes qui sont au cœur de l'univers de Mandalorian.
Voilà. Je précise à nos auditeurs que Cyril Lacarrière fait ça sans notes, on sent le passionné.
Et j'allais finir en vous disant que d'ici 5 ans, Disney espère compter entre 60 et 90 millions d'abonnés. Netflix en compte aujourd'hui 158 millions. Dans le monde.
Merci beaucoup Cyril Lacarrière. Rendez-vous demain pour un nouveau Journal des Médias.
À demain.
Chewbacca. À suivre l'infomédia du jour, on va parler ce matin de la nouvelle formule du magazine Polka. C'est dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Et c'est l'heure, Philippe, de l'infomédia du jour.
Info média du jour consacré à un lifting, celui du magazine Polka, diffusé à 30 000 exemplaires. C'est pas rien, un magazine qui se présente modestement comme le plus beau des magazines de photographie d'actualité, de toutes les actualités, des infos du monde à l'univers de l'art. Il a été lancé en 2007 et dirigé depuis par l'ancien patron des rédactions du JDD de Paris Match, Alain Genestard. Polka est consacré à la photo. Le dernier numéro en kiosque depuis une semaine inaugure une nouvelle formule. Alors quoi de neuf? Eh bien, en plus de l'analyse et pour donner du sens, un mot à la mode, à l'info et une rubrique destinée aux partenaires, destinée aux partenaires du magazine, intitulée « By Polka, Kezako ». Eh bien, Alain Genestard est mon invité. Bonjour Alain.
Bonjour Philippe.
Et vous allez nous dévoiler le nouveau visage de votre bébé. Tout d'abord, pour qui ne connaîtrait pas Polka, comment vous le définiriez?
Un magazine de photographie. Je dis de photographie, je ne dis pas d'image.
Vous dites pas de photo non plus. Vous dites le mot savant avec les quatre syllabes.
Et puis maintenant, on va dire photo.
Ouais.
Et qui a un slogan « Chaque photo a son histoire ». Pour nous, une photographie, eh bien, c'est un témoignage. Ça peut être un témoignage d'actualité, mais ça peut être le témoignage de la beauté. C'est du photojournalisme, c'est de l'art. Donc c'est un magazine qui se décline complètement autour de la photographie et qui ajoute à cette photographie, parce qu'une photographie qui n'a pas de texte, qui n'a pas de légende et qui n'a pas de texte, c'est une photo muette. Donc il y a également, dans Polka, beaucoup de textes.
Et je dois dire que c'est un magazine très très beau, sur du très beau papier, et ça a son importance pour le rendu. C'est quoi le rythme de parution? Vous devenez un trimestriel qui ne sort que 3 numéros par an.
Voilà, donc nous étions un trimestriel, c'était donc chaque trimestre, et on a décidé de passer de 4 à 3. Et pourquoi? Parce que...
Ah bah je peux le dire, bah en vous citant, votre édito qui démarre très fort. Et si on se disait la vérité, écrit Alain Genestard, plutôt que de tourner autour des mots, je saute un paragraphe. Rien n'est plus vrai que cette évidence pétrie de bon sens, écrivez-vous. L'argent est le nerf de la guerre. Faute d'argent, on ne peut pas envoyer en reportage des journalistes et des photographes. Faute d'argent, on ne peut conserver une équipe compétente et expérimentée. Faute d'argent, on ne peut reproduire sur un papier luxueux de 90 grammes avec une pagination élevée des photos qui méritent un excellent support. Tout ça pour dire qu'également vous passez à 9,90.
Voilà, on augmente le prix, on passe de 4 numéros à 3. On est parti du constat, vous savez, on parle beaucoup de crise de la presse, il faut arrêter d'en parler. C'est plus une crise, c'est un état de fait. Il y a eu une révolution numérique énorme qui a tout changé. Il n'y aura jamais de restauration, donc il n'y a pas de place pour la nostalgie. On est dans un nouveau monde, déjà depuis quelques années. Eh bien, il faut que le papier s'adapte. Et il y a deux façons de réagir, en étant également sur le net, c'est ce qu'on fait, ce que vous faites très bien en Europe, c'est ce qu'on fait à Polka et c'est ce que font tous les médias. On vient de lancer un nouveau site, la polkafactory.com, qui commercialise des clichés. Et puis les deux autres manières de réagir par rapport au papier, c'est de mettre dans une situation de rétrécissement. Voilà, il fait le temps, les temps sont difficiles, donc on réduit la pagination, on réduit les équipes, et finalement on va mourir. Donc nous, on a choisi de faire exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on a augmenté la pagination, on a conservé toute notre équipe, une équipe expérimentée, et très bons journalistes.
Vous êtes combien, Polka?
En tout, nous sommes 15, pour l'ensemble du concept. Hein.
Ouais.
Il y a également une galerie, une sorte de boutique qui s'appelle La Factory, qui est un lieu de rencontre également des photographes, des sites internet, du brand content, on va en parler avec By Polka. Et le magazine lui-même, oui, c'est 7 à 8 personnes, et c'est surtout un réseau de photographes de par le monde. Et j'insiste beaucoup sur cela, parce qu'il y a beaucoup de magazines qui se créent, mais très souvent, quand on regarde les ours, vous savez qu'ils sont...
Ouais. L'ours, c'est la liste des participants.
Voilà. On voit qu'il y a assez peu de journalistes. Chez nous, il y a des journalistes. On pense qu'un magazine se fait avec des journalistes, c'est même une évidence. Et ça, d'ailleurs, ça rebondit sur l'ensemble du concept. Il y a également des galéristes, mais il y a des journalistes qui sont là et qui décortiquent chaque image.
Alors vous dites que la presse écrite, le marché se rétrécit, mais il y a des choses qui sont en expansion, notamment Internet. Vous attaquez Google, mais pas seulement. Vous écrivez « Google et les autres moteurs de recherche picorent allègrement, pour l'instant en toute impunité, dans la basse-cour des canards du monde. » Les canards du monde, c'est les journaux, la presse internationale. Comment résister? Comment faire pour se faire rémunérer? Il y a Google, mais il y a également Facebook, dont personne ne parle, et qui publie absolument tout ce qu'il veut, ou presque, sans rémunérer personne.
Alors nous, notre façon de réagir, parce que voilà, on va pas y arriver tout seul, mais il y a des choses qu'on peut faire seul. On a réalisé, par exemple, qu'en publiant des reportages photographiques qui étaient déjà publiés ailleurs, à l'extérieur de notre zone de diffusion, je pense aux États-Unis, en Allemagne et tout, ben voilà, on était contents, en disant, tiens, ça n'a pas été publié en France, donc on va le publier à notre tour. Mais c'est une erreur.
Pourquoi?
Aujourd'hui, avec Internet, tous les amateurs de photos, tous les fous de photographie, c'est-à-dire tous les lecteurs de Polka, voient les photos qui sont diffusées partout.
Je veux dire, un très bon sujet dans le Time à New York, du coup, il est sur Internet, donc c'est pas la peine de le publier ici.
Alors, on a une certaine satisfaction, parce que, d'abord, ça, c'est rassurant, parce que on a vu le reportage, on sait que c'est du très bon, c'est des bons photographes et tout. Mais on n'est pas créatif. Et donc, on a décidé, à Polka, d'où cette augmentation de prix, d'où ces trois numéros au lieu de quatre, de produire des sujets.
Mais vous m'avez pas répondu, comment vous faire pour vous faire rémunérer par Google, Facebook et les autres, ou est-ce que c'est peine perdue?
On n'y arrive pas, non. De toute façon, il faut se mettre d'accord tous, hein. Europe 1, Match, JDD, et puis le gouvernement, ce serait, bon, qui, tout le monde essaie, mais c'est la presse mondiale qui doit à un moment réagir.
Je recevais justement le ministre de la Culture et de la Communication, Franck Riester, à ce micro, qui disait que justement, il allait attaquer au niveau des droits voisins une loi qui a été votée au Parlement européen et qui n'avance pas beaucoup.
Ouais. Mais il ne faut pas toujours se mettre derrière son gouvernement, ou sur IACA, ou une nouvelle loi, ou une interdiction. Maintenant, on règle les problèmes en interdisant. Je crois qu'on est tous des acteurs, et on peut, en tant qu'acteur, et nous en tant qu'acteur de la photographie sur le papier et sur le net, prendre des décisions qui nous permettent de nous installer dans ce nouveau monde.
Est-ce que la photographie, c'est un art, un loisir de riche, de CSP+ ?
Non.
Je veux dire le sens de ma question. Ouais. Alors j'étais très frappé en feuilletant Polka. Ouais. Je regarde, il y a une double page Cartier de publicité, une double page Chanel, une double page Audi, c'est pareil, une Audi. Hein. Double page Guerlain.
C'est la petite Audi.
Et ensuite, une simple page. La petite Audi, mais il faut quand même avoir une Audi. Et ensuite, une simple page Rolex face à votre édito. Et je me dis donc, c'est pas un magazine gilet jaune.
Alors là, vous avez choisi des publicités.
J'ai fait dans l'ordre. Oui. J'ai fait page 2, page 3, page 4. Voilà. J'ai pas choisi.
C'est eux qui paient le plus cher. Pourquoi le luxe dans un magazine qui parle de tout et qui parle de la grande actualité
Parce qu'ils disent qu'ils vont toucher leur clientèle. Donc c'était le sens de ma question. Je vous reproche pas du tout d'avoir des annonceurs. On en est tous ravis. Je dis juste, quelle est votre cible ?
Alors, notre cible, est, si on part de ces annonceurs, et c'est un bon point de départ, pourquoi ils sont dans Polka ? D'abord, c'est parce qu'on a un beau support, on a un très beau papier, on a une excellente imprimerie, la meilleure imprimerie de France, Imaille. On fait tout pour que le rendu de la photo soit parfaite. Si vous prenez ces publicités de luxe, ce sont des publicités qui communiquent par le biais de l'image, de la photo. Ils font très souvent appel d'ailleurs à de grands photographes qu'on retrouve dans des reportages. Et là, ils ont la satisfaction, dans un journal qui a un taux de circulation très élevé, parce qu'avec nos 30 000 exemplaires vendus, on arrive à 150 000, 170 000 lecteurs. Et en plus, on reste, on ne jette pas Polka, on le garde. Donc, c'est une grande satisfaction pour l'annonceur de voir qu'il demeure. Et, bon. Et puis, on est relativement cher à Polka, parce que c'est du papier, parce que c'est du beau papier. Donc, la page de pub...
Elle coûte combien ?
Elle coûte une double, c'est... Si vous prenez une double et deux simples, vous arrivez à un budget de 15-20 000 euros.
15-20 000 euros, je ne sais pas combien ça va nous rapporter cette pause, à tout de suite.
Notre infomédia du jour est consacré ce matin au magazine de photographie Polka. On y revient dans un instant sur Europe 1.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel. Dans l'infomédia du jour, on s'intéresse au magazine de photographie Polka, lancé en 2007. Il inaugure depuis une semaine une nouvelle formule dont vous nous parlez, Philippe Vandel, avec votre invité, le fondateur de Polka, Alain Genestar.
Une nouvelle formule et un nouveau corps de métier, si j'ose dire, by Polka. Qu'est-ce que c'est, Alain Genestar, by Polka ?
Alors, c'est un mot anglais qui résume tout, qui s'appelle le brand content. C'est-à-dire, on va voir des marques, et ces marques souhaitent communiquer au-delà des publicités dont nous parlions. Et elles ont des messages à faire parler, à faire passer, notamment des fondations. Donc on discute, voilà. C'est la rédaction qui va. Moi, j'accompagne souvent la directrice générale, Elise Plus, et puis tout le monde y va, la rédactrice en chef, Alexandra Nawawi, Dimitri Beck, responsable de la photo, et on parle avec eux. Qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message ? Et après, on revient, et on discute, et on leur fait une proposition en images. Parfois, ce sont ils ont besoin de photographies, je sais pas moi, au Groenland ou au Sahara et tout. On a des photographes qui sont liés avec nous parce qu'on a déjà travaillé avec eux dans le magazine et qui sont prêts à collaborer à ce genre de choses. Alors, vous me dites, c'est de la pub. Mais nous, on a l'autorisation, je vais dire, c'est le mot, de notre rédaction. Ouais. Parce que notre rédaction sait qu'ils vont pouvoir, les journalistes et les photographes vont pouvoir faire leur métier indépendamment. Et ils vont travailler, et c'est comme ça d'ailleurs qu'une rédaction travaille bien, c'est quand il n'y a pas quelqu'un qui la surveille. Donc les intermédiaires après, une fois que le produit, entre guillemets, est terminé, c'est à nouveau les commerciaux chez nous qui vont voir l'annonceur et qui regardent s'il est satisfait. Donc on a des gens comme le PMU, des gens comme Roderer et tout, ils ont des messages souvent culturels d'ailleurs à faire passer et on les fait passer à travers notre rédaction.
Roderer, c'est une grande marque de champagne, c'est noble, mais si c'est par exemple une marque de camion qui pollue, qui vous envoyez au Groenland pour verdir leur image, vous leur dites quoi ?
Non.
Vous avez déjà dit non à une marque ou à un projet ?
Non, parce que personne n'est venu nous voir avec une idée aussi saugrenue. En général, c'est pour ça que je vous parle des fondations, c'est souvent des grandes marques qui ont des valeurs à faire passer. Et là, bon, c'est plutôt intéressant. Le PMU, par exemple, c'était faire passer la proximité du PMU avec les gens à travers la Coupe de France, les petits poussés. Et donc, on a fait un reportage, un photographe de guerre, Édouard Elias, qui a suivi des équipes du petit poussé pour le PMU.
Je vais parler du contenu du journal. Il y a une interview du très grand photographe, sinon le plus grand photographe de photoreportage, Sébastien Salgado, le grand brésilien. Vous revenez sur le sujet qui a fait sa renommée mondiale en 86, cette mine à ciel ouvert dans le nom m'échappe à l'instant. Et pour vous, il a retrouvé des images inédites. Elles sont dans le journal et vous avez aussi une galerie. Cette question englobe deux questions. On pourra également voir du Salgado inédit dans la galerie Polka.
Alors la mine dont vous avez oublié le nom, c'est la Serra Pelada. Voilà. La personne qui m'accompagnait dans cette interview, c'est Alexandra Nawawi. Et on a donc, Sebastião Salgado, on le connaît depuis le tout début de Polka. C'est, vous l'avez dit, sans doute
l'un des plus grands livres, absolument sublime, qui s'appelle La main de l'homme.
La main de l'homme. Et dans La main de l'homme, il y avait justement la Serra Pelada.
Exactement.
Et de la Serra Pelada, il a fait un autre livre qui s'appelle Gold. Il va y avoir une exposition en Polka. Là, pour l'instant, c'est Mugler qui expose à Polka. Au mois de janvier, ce sera Salgado avec ses photos et des photos inédites. Des photos inédites de Salgado, ça veut dire quoi? Il n'aime pas ce mot-là. Lui, il dit, moi, mes photos, ce sont mes photos, c'est moi qui décide si elles sont inédites ou pas. Là, il va nous montrer pour la première fois des photos de la Serra Pelada qu'il n'a jamais montrées et qui vont donc être exposées à la Galerie Polka et qui sont déjà dans le magazine. Toutes les photos du magazine sur la Serra Pelada, il y a une dizaine de pages, 12 ou 14, ce sont des photos inédites.
Votre cœur de métier, le cœur de votre passion, Alain Genestard, c'est la force de l'image. Une image qui parle plus qu'un long discours, je ne suis ni le premier ni le dernier à le dire. Quel sentiment vous inspire cette image qui a totalement obéré toute la manifestation de dimanche, une image qui fait polémique, c'était une manifestation anti-islamophobe. Il y avait 10 000 à 15 000 personnes dans la rue, mais on n'a parlé que de ceci, cette petite fille avec une étoile jaune, combien même ce ne serait pas l'étoile juive à 6 branches. Le scandale que ça a créé, qu'est-ce que ça vous inspire, cette affaire et cette image ?
Ça montre déjà la puissance de l'image. En plus, cette image, elle n'arrive pas comme ça. Elle arrive déjà sur un fond de polémique et de critique par rapport à cette manifestation et cette mobilisation. Il y avait déjà dans l'air notamment d'intellectuels qui prenaient du recul.
Le sens de ma question. J'ai l'impression qu'avant la manif, il y avait autant de pour que de contre. Et là, tout d'un coup, il y a eu un tollé.
Voilà, cette image, elle a révélé jusqu'à quel point la récupération pouvait aller, c'est-à-dire jusqu'à l'obscène, jusqu'à l'indécence. En plus, vous avez vu sur cette photo, c'est une petite fille. Donc il y a l'utilisation en plus d'un enfant par les parents. Donc ça montre la puissance de l'image. Ça montre l'importance d'un magazine d'images. Et vous savez, il y a une chose qui est très simple. Ça fait très longtemps que je travaille avec les photographies. Avec des photos, il arrive très souvent d'avoir des procès. Avec la radio, avec la télévision, avec la presse écrite, c'est très rare. Pourquoi ? Parce que la force d'une image est beaucoup plus impactante, beaucoup plus concernante pour le public qu'un film, qu'une vidéo ou autre chose.
Vous l'auriez publié, cette photo ?
Je l'aurais publié, oui, pour dénoncer ce qui se passe. Il faut toujours publier. Nous, notre métier, c'est pas de ne pas publier, c'est de publier. Mais on publie dans un certain contexte. On explique pourquoi. Chaque photo a son histoire, c'est notre slogan. Il y a beaucoup de fausses photos. On parle de fake news, il y a beaucoup de
vous le président Macron avait publié cet été pour dénoncer les forêts qui brûlent en Amazonie, une photo de l'Amazonie qui brûle, datant d'il y a 16 ans. Et alors qu'il se revendiquait de l'urgence. Cette photo-là n'était pas urgente.
Notre président, il a un problème justement autour de lui. Il n'y a pas des professionnels de l'image qui lui expliquent ça. C'est très dangereux aujourd'hui de publier. On le voit sur le net. Il se passe tout et n'importe quoi. Des photos qui arrivent sans légende, on ne sait pas qui les a prises, dans quelles circonstances. Celui qui prend la photo, si ça se trouve, il a un fusil derrière lui. On lui demande de prendre cette photo. C'est pourquoi je reviens sur Polka, le magazine qui est fait par des journalistes. Toutes les photos chez nous sont scrutées, sont analysées, on raconte leur histoire, il y a une légende. Et l'authenticité, c'est ce qu'on doit au lecteur.
Merci beaucoup Alain Genestard, créateur, fondateur de Polka. C'est en kiosque, 30 000 exemplaires et c'est du très très beau papier. Regardez, si je le fais tomber, écoutez le bruit que ça fait. Boum.
Il est de retour sur TMC pour un nouveau Prime Inédit ce soir à 21h15. C'est Martin Veil qui nous embarque au Brésil et en Amazonie. Il vient nous en parler dans Culture Média et c'est dans un court instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
Et dans Culture Média, Philippe, on accueille Martin Veil.
Bonjour Martin Veil.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, le grand public, vous avez découvert dans les émissions de Yann Barthès, le petit journal sur Canal+, vous êtes bien jeune, c'était déjà dans le petit journal qui est devenu quotidien sur TMC et désormais vous volez de vos propres ailes. C'est vous qui présentez la nouvelle émission de grand reportage sur TMC. Martin Veil, elle porte votre nom avec un très beau logo MW, ça fait un graphisme. Titre des deux reportages de ce soir à partir de 21h15, Martin Veil au Brésil, suivi de Martin Veil en Amazonie, quoique l'Amazonie soit au Brésil. En gros, vous faites le bilan d'un an de pouvoir de Jair Bolsonaro, président ultra-traditionaliste qui a été élu le 28 octobre 2018 avec 55% des voix. Comment avez-vous procédé ? C'est tellement vaste le Brésil, les sujets sont tellement larges. Où êtes-vous allé ?
Alors oui, le Brésil c'est extrêmement vaste et puis résumer la politique d'un homme comme ça, c'est pas forcément aisé. On a pris en fait ce qui était le plus saillant dans sa politique, à savoir à la fois ses soutiens, mais aussi ceux qui aujourd'hui sont contre lui. Et on s'est baladé de Rio à Sao Paulo, en passant par Brasilia. Et puis pour la partie en Amazonie, on allait dans le Mato Grosso.
Est-ce que vous avez des difficultés ? Comment sont perçus les médias français depuis les sorties du président ? Ça vous fait sourire ? Bolsonaro sur l'épouse du président français, les tacles de Macron à Bolsonaro sur la forêt amazonienne.
Bah alors clairement côté pro-Bolso, Macron c'est pas une idole, hein, on va pas se mentir. Beaucoup de gens estiment que c'est lui qui a insulté le président. Après il y a quelque chose qui est aussi assez intéressant, il y a pas mal de gens qui soutiennent Bolsonaro, mais qui ne sont pas forcément d'accord avec tout ce qu'il dit. Moi parmi les gens qui le soutiennent, il y en a beaucoup qui m'ont dit « Oui bon, c'est vrai que les blagues effectivement sur le physique de Brigitte Macron, c'est inacceptable de la part d'un président. » Mais globalement côté pro-Bolso, oui, Macron a pas une super réponse.
La première image qui frappe, vous allez sur la plage de Rio, Copacabana ou une autre, je ne sais pas, et on vous entend demander aux gens qui sont là, les Brésiliens qui sont là, pour qui ils ont voté. Vous leur demandez en portugais, vous parlez portugais ? Parce que je ne savais pas ça de vous. Je suis votre
alors
carrière
non,
depuis assez longtemps.
Alors non, je ne parle pas portugais, je parle espagnol. Mais du coup, ça me permet de bien comprendre les réponses. Mais mes questions étaient toutes minables au début ouais. Et à la fin. Au bout d'un mois, ça allait. Je parlais pas trop mal.
Ah, une info, vous êtes quand même resté un mois pour faire un reportage.
Exactement.
Pour faire
ouais.
Deux reportages. Alors maintenant, le fond, vous donnez aussi bien la parole aux pro-Bolsonaro qu'aux anti-Bolsonaro. Mmh. Et ça, c'est une qualité du sujet. Qui sont les plus virulents ?
Très bonne question. Les plus virulents, les deux. C'est une société qui se polarise, en fait. Ça ressemble un peu à ce qu'on peut voir aux États-Unis où, quand il y a un dirigeant politique avec une politique aussi ferme, aussi autoritaire, bah forcément, les gens qui s'opposent donnent de plus en plus de voix.
Et vous avez vu, évidemment, les plus virulents. C'est pas intéressant d'avoir de l'eau tiède. On va parler de la sécurité. Au Brésil, il y a 45 000 morts par an par arme à feu. C'est trois fois plus qu'aux États-Unis. Juste pour situer, j'avais noté un chiffre, j'ai oublié. Ah oui, le taux d'homicide au Brésil, c'est de 31 000 pour 100 000 habitants. En Europe occidentale, c'est de 1 ou 2, juste pour comparer. C'est entre 15 à 30 fois plus qu'ici. Et vous avez rencontré le capitaine de l'accord. Avant d'en parler, je vais donner une info. C'est que le président Bolsonaro s'est dit favorable à ce que les policiers tirent à balles réelles.
Ouais, c'est ce qu'on lui reproche beaucoup, c'est une sorte de permis de tuer, si vous voulez. Il a dit qu'il voulait que la police tire pour tuer. Voilà, donc ça donne effectivement un nombre de bavures policières en augmentation, un nombre de personnes qui sont tuées dans des affrontements avec la police en augmentation.
18% en plus, je prends le chiffre de votre enquête, qui mettent en cause des policiers pour 1402 victimes. Ils ont même des snipers dans des hélicos ouais. Au-dessus des favelas. Et alors, il y a un type qui se défend devant vous, qui dit « Mais non, l'hélico, c'est presque sécure. Racontez ce qu'il vous dit. »
Oui, exactement. C'est un policier qui nous explique qu'en fait, donc, bah, ces images qui sont assez choquantes, hein, ouais. En tout cas pour un profane, quelqu'un qui ne bosse pas pour la police, de tirer depuis des hélicoptères sur des habitants, forcément, on se dit « Mais enfin, dans quel monde on vit ?» Et alors, lui, il nous explique que ça évite le risque de bavure, parce que si vous tirer à la verticale, il y a moins de chances que la balle se perde.
Alors que si on tire à l'horizontale, ouais. La balle peut faire 2 km.
Voilà, c'est un peu ça.
Alors, vous avez rencontré le capitaine de la COR, qui est une unité d'élite de la police de Rio. Elle comporte 340 hommes. Ils interviennent dans les quartiers populaires. Et le capitaine, pour le situer, il a la petite quarantaine. Il est dans son bureau. Il a sa chaise de bureau derrière lui. On dirait Big Jim. Et ce qu'il a sur la chaise de son bureau est assez impressionnant. Il ne se cache même pas.
C'est votre équipement personnel, tout ça ?
Oui, c'est mon équipement personnel. Ça, c'est le gilet de pare-balles. Ça, c'est un fusil d'assaut M16, calibre 55 mm. C'est celui que j'utilise dans les favelas.
1, 2, 3, 4, 5, 6 chargeurs.
Oui, 6 chargeurs.
Pour nous, c'est étonnant de voir tout cet équipement. C'est un équipement qui, chez nous, est réservé souvent aux militaires.
La vérité, c'est qu'on affronte des criminels qui utilisent ces mêmes armes de guerre. Ils possèdent des fusils d'assaut, donc la police doit se procurer les mêmes.
La question que tout le monde se pose, est-ce que l'insécurité a baissé depuis que Bolsonaro est au pouvoir? C'est pas dans votre sujet.
Alors, si vous regardez les chiffres, effectivement, l'insécurité, en tout cas les chiffres officiels, disent que l'insécurité a baissé.
Mais ce qu'il faut voir... Parce que je les ai regardés justement, je me suis dit, c'est pas dans son sujet, alors je peux vous dire, je vais citer un papier d'Atlantico. Un an après son élection, Jair Bolsonaro obtient des résultats notables dans la lutte contre l'insécurité au Brésil. Je lis, au premier semestre, le Brésil a connu au niveau national une chute considérable de 22% des homicides, de 25% des vols de fret ou encore de 26% des carjackings. Pourquoi c'est pas dans votre sujet ?
Alors, je pensais en l'occurrence qu'on avait évoqué. Ce qui est intéressant quand on s'intéresse à l'insécurité, à une baisse potentielle dans la sécurité, c'est de voir à quel prix elle se fait, cette insécurité. Si vous dites que vous réduisez l'insécurité, mais que dans le même temps, le nombre de fusillades qui ont lieu et le nombre de personnes qui sont tuées dans des interactions avec la police augmente de manière drastique, il faut se poser la question de est-ce que cette insécurité, vous êtes réellement en train de la faire baisser, ou est-ce que vous êtes en train de créer le terreau pour qu'il y ait plus d'insécurité et que les affrontements se multiplient.
C'était un choix de votre part de ne pas mettre cette info, ou ça s'est fait comme ça parce que vous n'aviez pas les chiffres?
Pour être tout à fait franc, je vous avoue que je pensais qu'on l'avait glissé quelque part dans le sujet.
Il vous reste jusqu'à ce soir pour finir le montage. C'est diffusé ça. À 21h15.
Exactement.
On retouche, comment ça se passe dans ces cas-là? On peut retoucher le doc dans l'après-midi?
Eh ben, je vais voir avec ma production, c'est possible. C'est possible.
J'ai les chiffres pour vous. Martin Veil, restez avec nous, on va parler de l'Amazonie. Et là aussi, c'est passionnant.
Oui, c'est dans un instant dans Culture Média, émission jusqu'à 11h. Vous pouvez nous écouter et nous regarder sur europe1.fr. Rejoignez-nous également sur Twitter, @E1CultureMédia, tout accroché.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Un an après l'élection de Jair Bolsonaro, Martin Veil parcourt le Brésil et l'Amazonie ce soir sur TMC. Il est avec nous ce matin pour en parler, Philippe Vandel.
Alors, il y a le Brésil et il y a l'Amazonie, catastrophe écologique, la forêt qui brûle, dénoncée notamment par le président Macron au sommet du G7 à Biarritz. On voit dans votre doc le président brésilien Bolsonaro qui minimise la catastrophe à la tribune de l'ONU. Vous vouliez avoir une idée concrète, vous êtes allé sur le terrain, vous êtes allé dans l'état du Mato Grosso. Pourquoi là-bas et qu'avez-vous découvert, Martin Veil?
Le Mato Grosso, c'est intéressant parce que c'est vraiment ces deux visions du Brésil qui s'opposent. Le Mato Grosso, depuis des années déjà et encore plus cet été, c'est un des États qui est le plus sujet à la déforestation. Et donc on a là-bas des fronts pionniers, des villes qui sortent un petit peu de nulle part et dont le but en tout cas des gens qui les créent, c'est d'étendre la production agricole. Et puis de l'autre côté, on a ce qu'on appelle la réserve du Xingu, donc c'est une réserve de peuples indigènes et qui, eux, voient leur terrain se rétrécir petit à petit, évidemment s'inquiète. Donc c'est intéressant d'avoir cette confrontation sur les deux visions du Brésil, deux visions de l'Amazonie.
Et ce qui est extraordinaire dans ce sujet, c'est que vous avez rencontré les deux populations.
Ouais.
Et c'est très très simple, quand on les voit d'en haut, il y a un côté tout est vert, de l'autre côté tout est terreux, parce qu'ils ont tout enlevé. 123 millions de tonnes par an, c'est la production de soja du Brésil, c'est bientôt le premier producteur mondial. Vous montrez les gens qui construisent des villes, et vous avez interrogé un gros producteur de soja. Pour vous, c'est quoi le plus important?
Pour vous, c'est quoi le plus important?
Le soja ou la forêt?
Pour moi, le soja.
Autrement dit, l'économie est plus importante que l'environnement.
Bien sûr.
Pourquoi?
La préservation, aujourd'hui, ça ne nous rapporte rien. On est tenu par la loi d'avoir des zones protégées. Et qu'est-ce qu'on y gagne, nous? Rien. Moi, je place toujours la faim dans le monde au-dessus de tout. Et la préservation, ça ne nourrit personne.
La préservation, ça ne nourrit personne. Que répondre à ça?
Alors, que répondre à ça? En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il reprend quasi mot pour mot l'argumentaire de Bolsonaro. Il faut bien comprendre que le but de Bolsonaro, c'est de mettre le Brésil à la première place de toute sa politique et que pour lui, l'Amazonie, c'est une source de richesse considérable et il ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on ne le laisse pas exploiter ses richesses comme il le souhaiterait. Et du coup, évidemment, ça résonne beaucoup auprès des agriculteurs.
Vous êtes allé dans une tribu amazonienne, les Waora. Au moment où vous arrivez, il y a une grande danse villageoise avec les hommes, les femmes qui dansent. C'est un peu de la mise en scène, ça, ils l'ont fait pour vous.
Alors, c'est de la mise en scène. C'est ce qu'on appelle une cérémonie d'accueil. Donc, si vous voulez, oui, c'est de la mise en
d'accord.
scène. Mais ça ne veut pas dire que ça ne fait pas partie de leur culture et que ces chants, ces danses traditionnelles ne se retrouvent pas dans leur vie de tous les jours. Au contraire.
Voilà. Mais est-ce qu'ils se sont mis en costume traditionnel pour vous, comme parfois dans certains reportages qu'on voit ? Je ne vais pas tous les citer parce que je ne veux pas me faire d'ennemis ici.
Ouais, alors
mais parfois, les gens sont en t-shirt et en short. Et quand une équipe de télé arrive,
ils changent. Le sont aussi. Ouais, mais alors pour tout vous dire, on arrivait en fait la veille au soir. Il y avait effectivement déjà, en fait, des danses, c'était en l'occurrence pour faire pousser du manioc. Et c'est aussi une façon en fait d'être poli. C'est-à-dire que si vous arrivez et que vous allumez vos caméras comme ça, ça leur plaira pas. Donc c'est une façon de dire bonjour. Et ensuite, effectivement, on discute d'ailleurs avec un des caciques du village qui dit moi, je reste toujours comme ça. Les jeunes aujourd'hui, c'est plus dur de leur dire te coupe pas les cheveux à l'occidental, etc.
Alors vous avez vécu une expérience assez forte. Vous dormez chez l'habitant dans une hutte avec le mari, sa femme, leurs 9 enfants. Il y a une seule pièce. Nouveauté, il y a une gazinière et surtout une immense télé à écran plat, 16/9, une Samsung. Pourquoi ils ont la télé ? Ils le disent et j'ai beaucoup aimé.
Ouais, parce qu'ils nous expliquent en fait, c'est que pour eux, c'est un moyen de rester informés. Il faut bien comprendre qu'ils sont attaqués de toutes parts et de plus encore depuis que Bolsonaro est au pouvoir. Donc pour eux, c'est un moyen de rester au contact de ce qui se passe et de ce qu'ils se disent d'eux.
Ah, il y a une phrase encore plus belle dans le documentaire, vous l'avez peut-être oublié. Il dit « pour entendre ce que les Blancs disent de nous ».
Ouais, aussi.
Et ils sont mis à apprendre le portugais, justement, pour ne pas se laisser déposséder par le savoir.
Ouais, ce qui est intéressant, c'est l'éducation. Alors, c'est pas nouveau, évidemment, le fait qu'il y ait des écoles, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, la plupart des jeunes qui étudient vont ensuite à l'université et reviennent dans la tribu. C'est-à-dire que toutes les compétences qui vont être acquises dans le milieu universitaire des Blancs, entre guillemets, va leur permettre, justement, à mieux se battre et à mieux se défendre, ne serait-ce que légalement, face aux attaques qu'ils subissent.
Merci beaucoup, Martin Veil. Je rappelle que vous êtes grand reporter sur TMC et vous présentez Martin Veil au Brésil et Martin Veil en Amazonie, on dirait du Tintin, mais tout est vrai, c'est ce soir à 21h15 sur TMC. La Castafiore, c'est à vous.
Notre heure culture, c'est dans un instant, Philippe, mais juste avant, place aux digressions des radoteurs, votre rendez-vous d'humour dans Culture Média avec le duo Stéphane de Groot et Gilles Gaston Dreyfus.